Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et ce matin, on va continuer dans le livre de Néhémie. Nous sommes arrivés à Néhémie 11. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi Néhémie 11. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite. Sur 10, afin qu'ils viennent habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a le plus béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda, chacun habitait sa propriété, sa ville. Qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres, de lévites, de serviteurs du temple, ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissaient aussi des Judéens et des Benjamites. Parmi les Judéens, il y avait Athaja, fils d'Ozias, et descendant de Zacharie, Amaria, Shephatia et Malalel, qui étaient issus de Péré, et Masséja, fils de Baruch, et descendant de Col-Osé. Adaja, Jojarib, Zacharie et Shilomi, nombre total des descendants de Péré qui se sont installés à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les Benjamites qui s'y installèrent. Salu, fils de Meshulam et descendant de Joël, Pédaja, Kolaja, Masséja, Itiel et Ezali, ainsi que, après lui, Gabaï et Salai, ils étaient 928. Joël, fils de Zikri, était leur commandant, et Judas, fils de Sénua, était le chef adjoint de la ville. Parmi les prêtres, il y avait Jédaja, fils de Jojanou, Jakin, Seraja, fils de Ilkija, et descendant de Meshulam, Tiadok, Merajot et Achitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, et leurs frères chargés des travaux du temple, ils étaient 822. Il y avait aussi Adaja, fils de Jorocham, et descendant de Pélaïa, Amzi, Zacharie, Pachur et Malkija, ainsi que ses frères, chefs de famille au nombre de 242, et Amachai, fils de Dazareel, et descendant d'Ashzaï, Meshilemoth et Imer, avec ses frères qui étaient de vaillants hommes du nombre de 128, Zabdiel, fils de Guédolim, était leur commandant. Parmi les Lévites, il y avait Shemaja, fils de Hashub, et descendant d'Azikram, Ajabia et Buni, ainsi que Shabtaï et Josabad, qui étaient chargés de travaux extérieurs pour la maison de Dieu et faisaient partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, et descendant de Zabdi et Azar, qui était responsable d'ouvrir le moment de louange lors de la prière. Bakbukia, son adjoint, qui était un de ses frères, et Abda, fils de Shamua et descendant de Galaad, et Jébutun, nombre total des Lévites présents dans la ville sainte, 284. Pour les portiers, il y avait Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes. Ils étaient 172. Le reste d'Israël, les prêtres, et les Lévites habitaient dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel, et ils avaient pour chef Sisha et Gushpa. Le commandant des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, et descendant de Hashabia, Matania et Miché, qui faisaient partie des descendants d'Azaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. En effet, il y avait un ordre du roi concernant les musiciens et un accord fixé leur part journalière. Pétacha, fils de Meshézabel, qui était issu de Jérach, le fils de Judas, était délégué auprès du roi pour toutes les affaires relatives au peuple. En ce qui concerne les villages et leurs territoires, les Judéens étaient installés à Kirjath Arba et dans les bourgades qui en dépendent. de Dibon et dans les bourgades qui en dépendaient, à Jekatsel et dans les villages voisins, à Jeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Sar-Sheul et Ber-Sheba, et dans les bourgades qui en dépendaient, à Tiklak, à Mekona, et dans les bourgades qui en dépendaient, et à Enrimon, à Tseroa, à Jarmut, à Janouach, à Adulam, et les villages voisins, à Laki, et dans son territoire, à Azeka, et dans les bourgades qui en dépendaient. Leur zone d'habitation s'étendait de Ber-Sheba à la ville de Ina. Quant aux Benjamites, leur zone d'habitation partait de Geba et comprenait Mikmash, Asha, Bethel et les bourgades qui en dépendaient. Anot, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Bethaïm, Adid, Jeboïm, Nebalat, Lod, Omo et la vallée des artisans. Certains Lévites étaient installés dans les parties de Juda rattachées à Benjamin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, Seigneur. Mais nous te bénissons aussi pour le moment qui a précédé, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là, présent parmi nous. Ô Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Permets-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'enlever, Seigneur, tout ce que l'ennemi a fait, ou veut faire, ou va faire contre nous, et ce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En lisant tous ces noms, toutes ces villes, ce texte, on peut se demander de quoi Jésus me parle dans ce texte. Beaucoup de faits historiques, et il est très important pour un enfant de Dieu de bien connaître son identité, parce que nous avons pendant longtemps été attaqués par le diable, par la méconnaissance de notre identité. Si tu connais ton identité, tu connais tes origines. Et si tu connais tes origines, Dieu te permet de comprendre aussi quelle sera ta destinée. Tout ceci est dans la parole de Dieu. Pour connaître nos origines, il faut déjà voir la promesse qui a été faite à Abraham. Et même si on remonte avant Abraham, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève et voir que là déjà, on retrouve aussi nos origines parce que Dieu dit « Multipliez-vous, dominez la terre ». Voilà ton origine. Tu dois te multiplier et tu dois dominer la terre. Mais quelqu'un est venu et entré dans l'histoire et a voulu prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Il s'appelle Satan. C'est un usurpateur. Et il usurpe tout ce que Dieu te donne depuis ta naissance jusqu'à ton départ sur cette terre. Mais Dieu combat pour toi. Oh, mes chers amis, Dieu combat pour nous d'une façon, c'est inexplicable tout ce que Dieu fait pour nous. Il y a certains détails de la Bible que je ne voyais pas, mais que Dieu a permis que je puisse voir. Et ce matin, je vais vous partager quelques parties importantes de détails de la Bible qui renforcent notre foi en Jésus-Christ. Néhémie 11. Il est parlé de trois tribus ici. On nous parle de la tribu des Lévites. On nous parle de la tribu de Juda, judéen. On nous parle aussi de la tribu de Benjamin. Déjà, il faut comprendre pourquoi ces 12 tribus. Et quelles sont ces 12 tribus? Et quelle était la promesse de chacune des tribus? Genèse 49, versets 1 à 27. Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants supérieurs en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé des jeunes et des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le verra se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples qui lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon résidera sur le côté, sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il soumet à des corvées d'esclaves. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Gad sera attaché par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention de Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il s'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Et le soir, il partage le butin. Les douze ont une bénédiction particulière, mais ce matin, nous allons regarder trois bénédictions. Celle de Benjamin, celle de Judas, celle des Lévites. Judas est celui sur lequel il est dit « le Shiloh apparaîtra ». Shiloh, c'est Jésus-Christ. C'est de Judas que va sortir le roi des rois. Et si vous regardez la généalogie de Jésus, Matthieu 1, c'est des fois très surprenant de voir pourquoi la Bible met des noms qui se suivent, qui se répètent. Généalogie de Jésus-Christ, du côté de Marie, comme du côté de Joseph, Matthieu 1, Luc 3, on remonte jusqu'à Judas. Donc Jésus-Christ est descendant de Judas. Mais voyez-vous, la particularité, c'est que Jésus-Christ est le vrai Jacob parce que c'est lui qui rassemble les douze tribus. Parce que toutes les bénédictions que Jacob a citées pour ses fils se retrouvent dans Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ n'est pas seulement le Judas. Mais il est aussi Lévite. Mais il est aussi Benjamin. Mais il est aussi de Joseph. Et toutes ces bénédictions, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les reçoit. Puisque c'est par Jésus, en fait, que nous recevons toutes ces choses. Dieu nous fait des grâces. Ce matin, n'oubliez pas aussi, dans la prédication, de vous souvenir que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir.
L'ancienne alliance est une ombre. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et tout ce que le Seigneur a fait dans l'ancienne alliance, c'était pour annoncer un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions convergent sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui déploie les bénédictions sur tous les croyants. Ainsi, s'il faut suivre cette logique, les 12 tribus que je viens de citer, toi qui as choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es dans ces 12 tribus. Tu as toutes les bénédictions que Jacob a données à ses enfants. Et ce matin, toutes ces bénédictions sont pour toi. Parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Les Lévites, dans le texte que nous venons de lire, de Néhémie 11, on voit une particularité, c'est que les Lévites vont être avec ceux de Juda et ceux de Benjamin. Pour l'histoire, vous vous souvenez, il y a eu un royaume, Saül est arrivé, il y avait un royaume, ensuite David est arrivé, remarquez déjà la prophétie, Saül était de la tribu de Benjamin. Il ne pouvait pas rester sur le trône. C'était prophétique. C'est ceux de Juda qui sont rois. David vient prendre la place de Saül parce qu'il est de Juda. Et la lignée de Juda va se poursuivre. Et remarquez qu'au bout d'un moment, les 12 tribus vont se diviser. On a 10 d'un côté, 2 de l'autre. Ces faits historiques sont importants pour bien comprendre d'où vient notre foi. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que quand on comprend ces choses, on connaît mieux la personne de Jésus-Christ. Et on comprend mieux l'œuvre à la croix de Jésus-Christ. Le royaume se divise, et lorsque le royaume se divise, Juda et Benjamin sont d'un côté, les 10 autres sont de l'autre. Mais le royaume du Nord disparaît avant le royaume de Juda. Et le royaume de Juda, quelque part, ne peut que disparaître physiquement, puisque lorsque Christ arrive, c'est Hérode qui domine, et Hérode n'est pas roi de Juda. La véritable place, elle revient toujours à Jésus-Christ. Ainsi donc, les Lévites, du temps de Moïse, Dieu dira, Moïse qui est Lévite d'ailleurs, vous remarquerez, comme Aaron, qui sont des Lévites, et vous remarquez que Moïse n'avait pas le titre de roi, on est toujours dans la prophétie, et Dieu va leur dire, vous les Lévites, vous m'êtes consacrés. Vous êtes pour moi. Vous m'êtes consacrés. C'est vous qui ferez dans le temple tout ce qu'il faut faire. Dans les Lévites, on va trouver les sacrificateurs, les scribes, les grands sacrificateurs. Et dans la descendance d'Aaron spécifiquement, c'est là où on retrouve le plus de grands sacrificateurs. Mais les Lévites, c'est une tribu qui n'a pas de terre, mais qui va être juste consacrée à travailler pour le temple. C'est très important de comprendre pourquoi les Lévites travaillent pour le temple. Parce que dans 1 Corinthiens 12, 27, il nous est dit, nous sommes le corps du Christ. Si tu es corps du Christ, ça veut dire que 1 Corinthiens 6, 19 te rattrape. Comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temple n'est plus à Jérusalem. Vous remarquez, c'est parti du tabernacle. Du tabernacle, on est arrivé au temple. Du temple, on est entré dans l'être humain. Dieu entre maintenant dans l'être humain. Ainsi donc, si le temple est dans le cœur de l'homme, il faut qu'il y ait un Lévite pour faire le culte. Et donc, tu es Lévite. Tu dois faire le culte. Remarquez une chose très surprenante. Jésus a accompli toutes ces choses pour nous permettre d'être dans le service. Hein, mes amis. Quand tu sers, Dieu voit Jésus. J'aime ça. J'aime ça. Parce que quand je sers, si Dieu ne voyait pas Jésus, il aurait vu beaucoup de mes manquements. Mais Dieu voit Jésus quand tu sers. Parce que Jésus, c'est le meilleur Lévite. Pourquoi Jésus commence-t-il à 30 ans son ministère? Les Lévites, vous lirez, à la Bible, elle est merveilleuse. Mes chers amis, c'est un bien-aimé, c'est un délice. À la Bible, c'est un délice. C'est délicieux de comprendre de Genèse à Apocalypse comment c'est lié. Les Lévites, dans Nombre 3 et dans Nombre 4, étaient des gens qui étaient consacrés à Dieu et ils commençaient leur service à 30 ans. Mais leur formation commençait à l'âge de 25 ans. dit. Donc, vous voyez, Jésus commence son ministère à 30 ans. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est celui qui rassemble les 12 tribus. Et les 12 apôtres sont une image des 12 tribus d'Israël. Mais un autre fait aussi va vous paraître assez insolite.
Ah, le Seigneur répond.
À la naissance de l'enfant, la famille va aller à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un recensement. Dans le peuple juif, il y avait des recensements, mais le recensement des Lévites ne se faisait pas comme les autres. Un Lévite devait être recensé à l'âge d'un mois. Jésus, né à Bethléem, il est recensé à quel âge? À la naissance. C'est lui le véritable. C'est le véritable. Les autres viennent, ne sont que des imitations de ce qu'est réellement Jésus. Et toute la vie de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on dit qu'en lui, la loi est accomplie. Toute la vie de Jésus-Christ a un lien avec l'Ancien Testament. Tout ce qu'il fait a une signification par rapport aux tribus d'Israël. Mais le plus utile pour nous ce matin, c'est de bien comprendre que tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous amener, nous, à être transformés à son image. Les Lévites étaient des gens extrêmement consacrés au temple et c'est la seule tribu d'Israël dans laquelle, vous savez, dans les tribus d'Israël, il y avait des princes. Les princes servaient comme ceux qui n'étaient pas de la lignée royale. Quand c'était leur tour d'aller nettoyer le temple, d'aller nettoyer les ustensiles, ils allaient le faire. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés corps du Christ. Et du coup, ceux qui sont dans le corps du Christ travaillent de la même façon. Que tu sois ancien, que tu sois celui qui fait l'accueil, nous travaillons tous pour la gloire de Dieu. J'aime ça. Ah, j'aime ça, le Seigneur est bon. J'aime ça parce que quand on lit ces textes, on comprend que ce n'est pas une situation suffisante de dire « Moi, je suis au-dessus, vous, vous êtes en bas. Vous vous faites, moi, je vous regarde faire. » Non. Christ lui-même est descendu, le véritable modèle, et lui-même a donné l'exemple, dépouillé, complètement dépouillé. Il est descendu en tant que serviteur. Lorsque vous lisez le texte de Néhémie 11, vous voyez que le nombre de Lévites, parce que là on fait une distinction entre Lévites et prêtres, ça veut dire pour vous situer par rapport au texte, à ce moment-là, on va dire que les prêtres, ce sont ceux qui sont consacrés au culte, uniquement au culte, et les Lévites, ce sont ceux qui vont faire des travaux autour du temple, en fait. Vous allez avoir, par exemple, des Lévites qui vont être des portiers. Vous allez avoir, par exemple, des Lévites aussi qui vont être des chantres. Et aujourd'hui, quand on lit Néhémie 11, on voit que le nombre de prêtres augmente. On voit que le nombre de ceux de la tribu de Benjamin sont plus nombreux que ceux de la tribu de Juda. Mais on voit en même temps que les Lévites vont aller s'installer, que ce soit avec ceux de la tribu de Juda, que ce soit avec ceux de la tribu de Benjamin. On retrouve bien la particularité du corps du Christ. Donc ce matin, Dieu t'appelle à servir. Dieu t'appelle à servir, si tu sers, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu ne sers pas encore, Dieu t'appelle à servir. Et j'aime ça parce que dans le service, il ne faut pas que vous ayez juste l'image que le service se résume à l'église. C'est faux. C'est faux. Partout où se déplace le temple, il faut qu'il y ait du service. Si tu es à la maison, tu dois servir. Si tu es au travail, tu dois servir. Partout où le temple est, il faut qu'il y ait du service. Partout où le tabernacle est, il faut qu'il y ait du service. Les Lévites étaient là jour et nuit pour servir. Donc Dieu t'appelle à servir. Il est possible que ce matin tu cherches ta place dans l'église. Quelqu'un peut te répondre. Il s'appelle Jésus-Christ. Quelle est ta place dans l'église?
Quel est le service que tu dois faire dans l'église? Il est possible que tu aies déjà un ministère dans l'église. Mais comment mieux travailler pour Jésus-Christ? C'est Jésus qui te répond. Il faut que tu t'approches de lui. Et Dieu nous aide à avoir un arrière-plan. Ce matin, il nous invite à avoir un arrière-plan, notamment celui des Lévites, qui étaient consacrés à la tâche. Un petit épisode dans Nombres, lorsqu'ils vont faire le veau d'or, Moïse descend, il a l'étape de la loi, il se fâche, il jette l'étape se brise, là aussi c'est prophétique, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est bourré de prophétie. La parole de Dieu, c'est Jésus. Si Moïse jette l'étable, il faut que la parole soit brisée. Jésus est venu à la croix, brisé. C'est prophétique ce que fait Moïse. Mais ensuite, il y a un autre acte prophétique qui se produit. Tous ceux à qui s'étaient consacrés au veau d'or sont mis devant Moïse. Et vous savez quels sont ceux qui vont les éliminer? Ce sont les Lévites qui vont tuer tous ceux qui avaient adoré le veau d'or. C'est très curieux de voir ça. Mais à travers Moïse, Dieu va bénir la tribu de Lévi. Malgré la violence qu'ils avaient en eux, Dieu va les bénir et va les consacrer pour sa gloire. Jésus est bon. Jésus-Christ est celui qui a fait de nous de véritables Lévites. C'est celui qui a fait de nous des prêtres. 1 Pierre 2, verset 5, verset 9. Le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus. Mais toi, aujourd'hui, tu es appelé prêtre. Vous vous rendez compte de la place que Dieu nous a donnée? Tu es appelé prêtre parce que tu as juste accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous voyez toutes les exigences de la loi pour les Lévites, tout ce qu'ils devaient faire de façon parfaite pour plaire à Dieu, ah, Dieu nous a fait une grâce infinie. C'est une grâce infinie que nous vivons, d'être appelé fils de Dieu pour celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans le service, je rappelle aussi que normalement, avec cet évangile, quand on entre dans la maison d'un croyant, on doit voir les gens se battre pour servir. Normalement. Est-ce le cas? Quand on rentre dans la maison d'un croyant, on doit voir des gens qui se battent pour servir. Parce que le temple est là. Il faut servir. Normalement, dans la communauté des croyants, quand on voit des mariés croyants, on doit voir un marié ou une mariée qui se bat pour servir l'autre. Est-ce toujours le cas? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Que ceux qui sont mariés écoutent. Tu dois servir plus celui qui est en face de toi. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Si tu te dis, j'en fais trop, je suis fatigué, trop c'est trop, j'en peux plus. Non, 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 non. Jésus-Christ est descendu de sa gloire. Je rappelle qu'il y a des milliers d'anges avec Jésus-Christ au ciel qui le servent, nuit et jour. Lui, il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des apôtres. Il lave les pieds de ses disciples. Vous vous rendez compte? Un Dieu si grand vient dans un corps, c'est petit à nos corps. C'est très petit pour un Dieu, c'est trop petit. Déjà, il faut marcher pour arriver jusqu'à la gare. Non, Dieu, c'est trop petit. Ça ne peut pas contenir sa gloire. Mais lui, il entre dans ce petit corps. Et dans ce petit corps, que fait-il? Il sert. Il sert. Il sert mieux que les Lévites. Il va laver les pieds des apôtres. Il va nourrir plus de 5000 personnes. Ah, j'aime ça. J'aime ça, surtout pour nous les hommes qui des fois ne m'ont pas cuisiné à la maison. J'aime ça. J'aime ça parce que ça me parle. Gloire à Jésus. Ma sœur, si tu cuisines pour beaucoup de gens, tu es sur les traces de Jésus. C'est bien. J'aime cet évangile. Il est magnifique, cet évangile. Il transforme des vies. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici cet homme qui vient pour nous donner une place, une véritable place avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que le diable a semées en nous. Pour une femme doit avoir ça, doit avoir telle autre chose. Il faut que ton mari te prouve qu'il t'aime parce qu'il te donne ça, il te donne ça, il te donne ça. Pour un homme aussi, il faut que la femme fasse ça, il faut que la femme dise ça. Mais est-ce que toutes ces choses sont bibliques? Qu'est-ce qui régit ta vie? Les hommes ou la parole de Dieu? J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que c'est le seul qui m'a permis de nettoyer des assiettes et des comptes. J'aime ça. Pour celui qui est dernier de sa famille, qui est censé ne pas faire grand-chose, j'aurais pu m'affaler dans mon canapé et être tranquille et dire, allez ma femme, faut travailler là. Je te bénis. Je te bénis. D'accord. Mes amis, Dieu nous appelle à servir. Dieu nous appelle à servir. C'est une grâce que Dieu nous fait de connaître cet évangile, d'être transformé. Pour celui qui est plus jeune, comment expliquer à ses amis que j'aime Jésus quand ils viennent voir ta chambre en désordre? Mais quel évangéliste! Ils entrent dans ta chambre est comme leur chambre. Mais pourquoi parles-tu de Jésus? Quelle est la différence? Si tu ne ranges pas tes affaires comme moi, mais qu'est-ce que ce Jésus fait dans ta vie? Et donc il fait comme ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai pas Jésus, je ne changerai pas. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui a accepté l'évangile et celui qui ne l'a pas accepté. Je vous rappelle que si vous allez sur Internet, vous regardez le temple de Jérusalem, le temple bâti même sous la période d'Hérode, c'est propre. Le temple est super propre. C'est très important. Dieu aime la propreté. Dieu aime la propreté. Mes chers amis, Dieu aime l'hospitalité. Si tu as invité une frère, tu as invité une sœur, j'aime ça parce que cet évangile, c'est-à-dire quand je lis cet évangile, à chaque fois je suis assis pour écouter. Mes chers amis, ne pensez pas que je suis debout en train de vous parler. Je suis assis pour écouter. As-tu invité un frère à manger chez toi? As-tu invité une sœur à manger chez toi? J'aime ça, cet évangile. C'est ça la réalité de cet évangile. Ah, il ne m'a pas invité, je ne l'invite pas. Non, non. 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 Souviens-toi de ton côté lévite. Toi, tu es là, ton plaisir, c'est de servir. C'est de servir l'autre. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Jésus-Christ nous fait des grâces infinies. Parce que vous voyez même dans le texte de Néhémie, ceux qui vont habiter à Jérusalem vont être tirés au sort. J'aime la parole de Dieu parce qu'à chaque fois, il y a toujours une connotation avec Christ. Dans Jean 19, 24, ils vont prendre la tunique de Jésus. Ils tirent au sort. Christ est annoncé déjà dans les livres. Christ est annoncé dans tous les livres de la Bible. Jésus-Christ est toujours annoncé. Les faits qui se produiront vont être annoncés. Ensuite, il y a aussi une particularité dans ce texte. Lorsqu'on arrive au chapitre, au verset 35, Néhémie 11, 35, on nous dit « L'Od Ono est la vallée des artisans. » Souvent, Christ se cache dans certains détails. N'est-ce pas le fils du charpentier qui nous parle? Marc 3, verset 1 à 3. Il fallait que Christ soit artisan pour que la bénédiction touche tout le monde. Pourquoi Christ n'est-il pas venu directement en tant que roi sur cette terre? Parce que c'est c'est ça que les Juifs attendaient. Il arrive, il est roi. Non, parce que la bénédiction s'arrêterait au roi. Il faut que Christ soit le tout petit pour que la bénédiction aille du tout petit jusqu'au roi. Il faut que Christ soit un homme, pas une femme. Pourquoi? Pour que la bénédiction touche les hommes. Si Jésus était une femme, ça n'allait pas toucher les hommes. Il faut que Christ soit le début de la création pour pouvoir toucher tout le monde. Vous voyez la grâce de Dieu? Personne m'a perdu là. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il fallait que Christ soit aussi de la tribu de Benjamin, parce que se passe-t-il dans le temple lorsqu'il est ressuscité? Quelque chose se déchire. Le voile est déchiré. Benjamin déchire la proie. Il déchire la proie. Pour bien vous installer dans la culture juive et dans les prérogatives que les Juifs avaient, vous devez savoir que parmi les 12 tribus, ils étaient installés d'une certaine façon autour du tabernacle. L'installation était précise. Et dans Nombre 2, on nous dit que le premier groupe qui attaquait toujours, c'était le groupe de la tribu de Juda. Quand il fallait aller attaquer, c'était toujours ceux de la tribu de Juda qui partaient les premiers. C'était les plus féroces. Les autres venaient après, et vous l'avez compris, les Lévites ne combattaient pas, ils restaient en prière pour que la faveur de Dieu soit avec le peuple, avec ceux qui combattent. Aujourd'hui, Jésus veut que tu sois aussi de la tribu de Juda parce que le combat est féroce. Le combat est féroce. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Il prépare sa journée la nuit. Il fait des attaques nocturnes. Il ne dort pas. Et du coup, revêtu de la qualité de la tribu de Juda, il te faut combattre même dans la nuit. Mes amis, à certains moments, il faut se révéler dans la nuit pour prier. À l'image de Christ. Christ priait souvent dans la nuit. Mais il priait aussi la journée. À chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait, oui Seigneur, tu m'as exaucé. Ce sont des prières qu'il fait. Mais la nuit, il a combattu. C'est très surprenant de voir cet homme. J'aime la vie de Jésus. Il mange bien le soir. Moi, si je mange bien le soir, je m'endors tout de suite. Lui, il mange bien le soir. Ensuite, il fait une nuit à prier. C'est pas un homme. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et il va dire à Pierre, mais Satan me réclame ton âme. Jérémie 23, 18. Vous pourrez lire à la maison. Dieu pose la question. Avez-vous déjà assisté à mon conseil? Dieu tient conseil. Et quand Dieu tient conseil, c'est le diable qui vient nous accuser. Et celui qui nous défend, c'est Jésus-Christ. Et donc, si tu as la qualité de service, si tu cherches la qualité de service, comme Lévite, il faut aussi que tu aies la qualité de combat, comme un judéen, comme celui de Juda. Et mes chers amis, le diable est très subtil. Tu vas prier pour un sujet, pour une guérison. Ça ne se produit pas. Que vas-tu faire? Tu vas baisser les bras. Je vous rappelle deux événements de la Bible, très importants. Naaman va voir Élisée. Il ne rencontre pas Élisée. Ceux qui sont avec Élisée, vous pourrez lire dans le livre des rois, lui disent, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman, commandant assyrien, va dire, mais comment moi, commandant, mais vous imaginez, là on voit les gilets jaunes, les serrés sont quand même impressionnants. Bon. Naaman habillé en soldat, on lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il y va, il est perplexe, mais on lui dit encore, écoute le prophète, fais-le quand même. Il entre une fois, il est toujours lépreux. 2 fois, toujours. 3 fois, toujours. 4 fois, toujours. 5 fois, toujours. Je rappelle qu'il aurait pu s'arrêter. Au bout d'un moment, c'est agaçant de refaire la même chose et de ne rien voir. 6 fois, toujours. Cette fois, il sort, il n'y a plus la maladie. Une autre surprise. Matthieu 4. Jésus-Christ prie. Un jour, il jeûne. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, il ne se produit rien. 30 jours, il ne se produit rien. 35 jours, il ne se produit rien. 37 jours, il n'y a rien. 39 jours, il ne se produit rien. 40 jours, Satan descend. Satan descend, pourquoi? Non, il y a quelqu'un qui m'embête. Mon ami, tant que Satan ne va pas t'attaquer, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, là, lui, ça le caresse. Aucun souci, on se dit, ne pas, c'est pas grave. Je peux venir dans sa maison de façon nocturne, j'envoie mes démons, même pour manger, il ne prie pas. Il n'y a aucun problème, il aime les McDo, là, il est en train de, voilà, ils sont les Big Mac, oh, c'est 2 euros, c'est 1 euro, c'est bon. Laissez-le manger, il ne prie pas. Ça, c'est facile. Mais quand tu commenceras, comme ceux de la tribu de Judas, à combattre dans la prière, ah, tu vas le voir se manifester. Parce que ça le dérange. Ça le dérange. Ceux qui ne le dérangent pas, il n'y va pas. Mais quand ça le dérange, il faut qu'il descende. Il faut qu'il vienne. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Ne l'oublie pas que Satan est vaincu. Rien dans ta vie ne doit être dominé par cet être qui a refusé la gloire de Dieu. Il est vaincu. Et il est vaincu. Et cet héritage, cette victoire, Dieu nous l'a donné. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Christ a pris notre malédiction à la croix. Et souvenez-vous, dans Genèse 3, Dieu dit, le sol est maudit. Le sol est maudit. Attention, regardez bien la façon dont Dieu s'exprime devant Adam et Ève. Il ne leur a pas dit « je vous maudis ». Il a dit « le sol est maudit ». Mais si vous lisez juste en amont, vous verrez que l'homme est tiré d'où ? Du sol. Donc il y a un lien de malédiction par rapport au sol. Et il faut que cette malédiction, quelqu'un la prenne. Et cet homme qui l'a pris s'appelle Jésus-Christ. J'ai vu dernièrement sur Facebook une personne poser la question en disant « Cet évangile a quelque chose d'incomplet. » Dans Ésaïe 7, Dieu dit « La jeune fille vierge mettra au monde un fils et il s'appellera Emmanuel. » Dans Matthieu 1, l'ange Gabriel vient devant Joseph. Il lui dit, tu appelleras l'enfant Jésus. Ils disent contradiction. Il y a une contradiction dans cet évangile. Ah, j'aime Jésus. Là où l'homme voit la contradiction, Dieu vraiment est dans sa gloire. Dieu est dans sa gloire parce que peut-être qu'un jour quelqu'un vous posera cette question. Dieu est dans sa gloire parce que dans le texte de Matthieu, on nous rappelle en dessous qu'effectivement l'enfant, la mère doit l'appeler Emmanuel. À partir du moment où vous lisez des textes bibliques et vous vous dites qu'il y a une contradiction, la solution c'est de chercher quand dit Jésus. Qu'est-ce que dit le maître lui-même? Que dit Jésus de cette situation? Matthieu 28, verset 20. Je suis moi-même avec vous. Ça signifie Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Jésus lui-même nous dit, je suis moi-même avec vous. Donc Jésus lui-même s'appelle Emmanuel. Et Jésus veut dire Dieu sauve. Pour que Dieu nous sauve, il faut qu'il soit avec nous. C'est complémentaire. Là où l'homme voit qu'il y a une contradiction, l'Esprit de Dieu nous révèle la complémentarité. Ah, Dieu est bon. C'est parce que Dieu est avec nous qu'il est descendu lui-même pour prendre nos fautes à la croix. Jésus rassemble les douze tribus dans Néhémie, c'est prophétique qu'on parle de Jérusalem. C'est prophétique qu'on dise, il y en a parmi les Judéens, ceux qui abandonnent leur terre. Parce que vous voyez, dans les villes, lorsqu'on habitait la ville, on n'avait plus son petit lopin de terre pour pouvoir cultiver. Et ces gens-là vont accepter d'abandonner leur terre pour aller vivre dans Jérusalem, pour repeupler Jérusalem. Et ça aussi, c'est prophétique, parce qu'en fait, celui qui a abandonné le ciel, c'est Jésus-Christ, pour venir nous faire grâce, de voir la présence de Dieu. Mes chers amis, il est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous, sans la nouvelle alliance, de penser que nous aurions pu être des Juifs. Déjà, il fallait avoir une mère juive. Après avoir eu une mère juive, il fallait retrouver dans quelle tribu on est. Après avoir vu la tribu dans laquelle on est, il fallait retrouver quel service on devait faire pour le Seigneur. La grâce de Dieu s'est manifestée. Jésus est venu, il a pris le péché de ceux qui étaient éloignés définitivement de Dieu. Nous étions éloignés définitivement de Dieu. Et même ceux qui sont juifs aujourd'hui, qui se disent juifs de sang, aujourd'hui, beaucoup sont éloignés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. C'est la même, c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. Mais si dans la Torah, Dieu ne te révèle pas, par exemple, que les écrits apocryphes, ce sont des écrits de culture juive, que ces écrits-là, tu ne dois pas les utiliser pour la compréhension de Jésus-Christ, tu vas peut-être maîtriser les écrits apocryphes et ne pas voir Jésus passer. Dans cet évangile, ce matin, nous avons vu deux aspects de tribus de Jacob dans lesquels Jésus se retrouve. Mais vous pouvez aussi faire l'exercice en lisant les évangiles et vous dire quels sont les autres aspects, comment la tribu de Siméon, comment la tribu de Ruben, c'est facile, le premier-né, on va enlever Ruben, comment Siméon, comment Gad se retrouve dans la vie de Jésus. Parce que Jésus rassemble ces 12 tribus et Jésus accomplit toute la gloire. C'est la particularité de Christ. C'est pour ça que ce n'est pas un homme. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si le diable t'a attaqué, si le diable t'a fait souffrir depuis beaucoup d'années, l'heure de la libération arrive. Parce que Jésus est venu libérer les captifs. La prison est finie. Joseph a souffert en Égypte, mais à un moment donné, Dieu a mis fin à sa prison. Et de sa situation de prisonnier pauvre, il est passé à une situation d'excellence. C'est ce qui t'attend aussi, au nom de Jésus-Christ. Jérusalem est la ville dans laquelle Dieu s'établira. Ça aussi, c'est prophétique. Il faut que Jérusalem soit repeuplée. C'est pour ça qu'il va prendre les gens des nations. Il faut que Jérusalem soit repeuplée. C'est pour ça qu'il va aller chercher des hommes et des femmes qui étaient éloignés de lui depuis des décennies. À ceux qui sont d'origine africaine, descendants des Égyptiens esclavagistes, à ceux qui sont d'origine occidentale, descendants des Édomites. Alors si vous lisez dans la Bible, vous verrez que des Édomites étaient des sacrés menteurs. Et voilà d'où nous venions. Voilà d'où nous venions. Égyptiens, magie noire, mais vraiment des satanistes purs. Dieu t'a emmené dans une église. C'est à sa gloire. Joël 4, versets 16 à 17. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Jérusalem sera sainte. Les étrangers n'y passeront plus. Mes amis, voyez la Jérusalem céleste. Dans cette Jérusalem-là, oh, j'aime le texte d'Apocalypse, on retrouve encore 12 tribus. Mais dans ces 12 tribus, il y a les gens des nations. Nous qui étions éloignés de Dieu, que le péché ne domine plus jamais ta vie. Dans le nom de Jésus. Dieu t'a béni. Amen.